RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons en direct de Barcelone Manuel Valls, ancien Premier ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu, des policiers ont délogé brutalement des migrants qui s'étaient installés place de la République à Paris. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est dit choqué par les images. L'avez-vous été également ?
Oui, bien sûr, comme tout le monde, la police ou la gendarmerie qui sont chargées du maintien de l'ordre interviennent en général de manière très professionnelle. Et c'est quand ce professionnalisme est mis en cause, et c'est rare, que forcément, dans un pays démocratique, dans une république comme la nôtre, ça choque. Donc une enquête a été demandée, et il y aura sans aucun doute, je n'imagine pas autrement les choses, les sanctions... qui suivront. C'est ainsi qu'une police républicaine doit fonctionner.
Une sanction jusqu'au préfet de police, comme le demande aujourd'hui l'opposition ?
Mais je suis à Barcelone, même si je viens régulièrement à Paris. Je suis, comme vous pouvez l'imaginer, avec intérêt tout ce qui se passe.
Oui.
Mais vous imaginez un ancien Premier ministre, un ancien ministre de l'Intérieur... qui commence à demander non seulement des sanctions, elles
c'est
sont
pas ce que je vous demande,
logiques mais... dans ce type d'affaires. Il y a une inspection générale de la police nationale qui fait en général très bien son travail. Mais écoutez, toutes les conséquences devront être tirées, mais ce n'est pas à moi de dire précisément le niveau des sanctions et qui doit être sanctionné. Ces incidents sont suffisamment rares, dans des conditions encore une fois difficile pour l'exercice du maintien de l'ordre. Les Français exigent, et c'est normal, des forces de l'ordre exemplaires. Eh bien, en fonction de l'enquête qui est actuellement en cours, si j'ai bien compris, on verra quelles sont les conclusions qui sont tirées. Mais laissez-moi tout de même rappeler qu'au-delà de cet incident tout à fait regrettable et scandaleux, bien évidemment, les policiers, les gendarmes, les forces de sécurité accomplissent un travail difficile et qu'elles méritent de toute façon notre soutien et notre solidarité.
Oui, Manuel Valls, vous avez vu dans les images qui ont été diffusées des choses qui vous ont paru particulièrement graves ?
J'ai vu notamment, je crois, cette image de ce croche-patte, non ?
Oui.
Et les formes d'évacuation.
Ce n'était pas la première fois, d'ailleurs, le croche-patte.
Je ne connais pas le contexte politique, parce que il peut y arriver dans des forces, dans des formes de maintien de l'ordre qu'il y ait ce type d'actuation. Mais je ne connais pas le contexte politique et je ne sais pas dans quelles conditions sont arrivés ces réfugiés, ces migrants, accompagnés d'élus et de responsables politiques. Mais en tout état de cause, le maintien de l'ordre nécessite toujours, une action proportionnée à ce qui se passe. Et à l'évidence, là, l'attitude des forces de l'ordre ou de certains membres de forces de l'ordre ou d'agents n'était pas proportionnée à ce qui se passait place de la République.
Emmanuel Valls, cette évacuation musclée s'est déroulée en pleine polémique sur la loi sécurité globale dont l'article 24 interdit la diffusion d'images si elles portent atteinte à l'intégrité des policiers. Si ce texte était déjà en vigueur, croyez-vous que l'on aurait vu ces images ?
Oui, mais moi je vois bien la polémique politique, politicienne entre le texte qui vient d'être voté d'ailleurs en première lecture à l'Assemblée nationale avec cet article qui a été modifié et ce qui s'est passé hier soir à la République. Et je vois bien monter de la part de beaucoup de secteurs de la société française, ça n'est pas nouveau, ces accusations non seulement contre la police, contre le ministre, et on a l'impression que la France est une dictature où la presse est interdite de faire et de jouer pleinement son rôle. Rien n'arrête, me semble-t-il, dans une démocratie, le travail de la presse. Rien ne doit l'arrêter. Surtout avec ces images qui aujourd'hui se diffusent partout sur les réseaux. Il y a le travail des journalistes qui doit se poursuivre, mais un simple citoyen peut filmer et peut diffuser ce travail. Dans une démocratie, ce travail est indispensable. Et il ne peut pas y avoir, évidemment, de frein au travail de la démocratie. Et en l'occurrence, je n'imagine pas un seul instant qu'avec cette loi ou sans cette loi, de toute façon elle ne s'applique pas, avec cet article modifié ou pas, nous n'aurions pas vu ce type d'image. N'exagérons pas tout de même. En revanche, il y a un autre problème, et il n'est pas facile à résoudre, je le reconnais, c'est comment on protège les policiers eux-mêmes ou les gendarmes dans l'accomplissement de leurs fonctions, de la diffusion de leur visage partout sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé notamment dans un certain nombre d'affaires ou de quartiers. Et c'est normal que les policiers demandent aussi cette protection. Mais la transparence, elle est indispensable. Et je ne pense pas un seul instant qu'elle soit aujourd'hui en cause en France.
Alors, Manuel Valls, si on vous entend bien, vous comprenez et peut-être vous partagez même l'intention de cet article 24 qui est la protection des forces de l'ordre qui sont très exposées. Et vous évoquez toute la difficulté qu'il y a à concilier la liberté d'informer et ce souci de protection des policiers. Précisément, comment fait-on pour trouver cet équilibre ?
J'ai l'impression que l'équilibre est recherché actuellement dans le travail des forces de l'ordre. Je serai moi-même auditionné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale par une commission d'enquête qui travaille sur la question du maintien de l'ordre, qui est un des sujets les plus compliqués pour un ministre de l'Intérieur, pour un préfet ou pour les forces de sécurité. Mais posons clairement le principe, il ne peut pas y avoir d'entrave au travail et à la liberté de la presse.
Mais est-ce qu'il y en a en l'état actuel du texte, Manuel Valls, est-ce qu'il y en a en l'état actuel du texte ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas que le texte tel qu'il a été adopté et modifié dans le débat, et puis il va passer au Sénat, il va revenir à l'Assemblée nationale, tout cela peut être peaufiné, travaillé, bien évidemment. Mais je ne pense pas qu'il y ait cette entrave. Et encore une fois, le chemin de crête n'est pas facile à trouver. Je pense, mais je vous donne évidemment mon avis, qu'il faut toujours privilégier la liberté de la presse et la liberté d'information. En tout cas, je ne peux pas la remettre en cause. Écoutez, même dans des pays totalitaires, heureusement, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des militants des droits de l'homme qui réussissent à faire passer ces images. C'est d'ailleurs comme ça, par exemple, que les printemps arabes, et plus particulièrement en Tunisie, ont commencé. Mais comparaison n'est pas raison. La France est un grand pays démocratique où la presse joue pleinement son rôle et où nous avons des forces de sécurité exceptionnelles. Et s'il vous plaît, c'est pas votre cas, vous m'interrogez, mais je le vois bien dans le débat général. On a encore une fois l'impression que ces policiers, ces gendarmes, ces forces de sécurité sont là uniquement pour réprimer. Non, ce qui s'est passé place de la République n'est pas normal. Il faut qu'on en tire toutes les leçons. Il faut qu'il y ait des sanctions s'il y a des responsables qui tombent. Mais c'est au ministre de l'Intérieur, en fonction des éléments de l'enquête qu'il aura, et puis le débat se poursuit, qui en tirera là aussi toutes les conséquences. Je lui fais entièrement confiance.
Alors Manuel Valls, vous vivez entre Paris et Barcelone, mais on vous voit beaucoup ces temps derniers dans les médias français depuis l'attentat et la mort de Samuel Paty. Vous avez déclaré que votre devoir était de réagir et de vous battre pour votre pays. Est-ce aussi parce que vous avez, Manuel Valls, le sentiment que vous n'avez pas été suffisamment entendu à l'époque, que votre fermeté dérangeait, et aujourd'hui vous avez le sentiment que l'exécutif s'est un peu rapproché de vos idées.
Je pense qu'il y a une prise de conscience plus générale au-delà des personnes. D'abord, vous m'invitez, les médias, et puis parce que j'ai été Premier ministre dans un moment particulièrement difficile, où nous avons subi les attentats de 2015 et 2016, qui a eu pratiquement 300 morts, ça a été d'une violence incroyable. Fort malheureusement de cette expérience, je peux m'exprimer sur ce sujet avec le recul et l'expérience nécessaire. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience plus large de la société française sur le fait que cette guerre qui nous est menée par l'islamisme, par l'islam politique, par le djihadisme, est une guerre qui sera longue, difficile. Nous la gagnerons parce que nous sommes une grande démocratie et au nom même de nos valeurs. Mais chacun a compris que ça va être long et difficile et que cette prise de conscience, elle est nécessaire. Nous ne pouvons pas avoir des attentats, ne plus parler de ce danger, celui de l'islamisme, et puis réagir à chaque fois que malheureusement nous sommes attaqués. Nous serons de nouveau attaqués. Nous aurons d'autres types d'attentats de ce type. L'Europe est visée parce que nous sommes une grande civilisation, une culture qui allie la démocratie et la tolérance. Parce que c'est la France, c'est une terre républicaine, c'est la terre de la laïcité, mais c'est une terre aussi judéo-chrétienne. C'est une terre où il y a une grande communauté juive, mais aussi une très grande communauté musulmane. C'est le deuxième culte, c'est la deuxième religion de notre pays. Pour toutes ces raisons, nous sommes attaqués. Il faut se défendre, et cette prise de conscience, bien sûr, et beaucoup sur ce que j'avais dit en 2015, elle me paraît être indispensable pour pouvoir lutter le mieux possible contre l'islamisme.
Manuel Valls, le texte qui initialement devait s'appeler le texte contre le séparatisme et qui finalement s'appellera le texte visant à conforter les principes républicains sera examiné dans quelques jours, le 9 décembre, en Conseil des ministres. Est-ce qu'il vous semble pertinent précisément de ne plus parler ni de séparatisme, ni de laïcité, le terme n'est pas employé dans le texte, ni d'islamisme? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de dérobade?
Oh, je ne crois pas. Il est présenté le 9 décembre, c'est l'anniversaire de la loi 1905 de séparation de l'État et des églises. Je connais la proportion, j'y participe moi aussi, des Français, à débattre sur les noms, hein, le débat sur le nominalisme, comme on dit. Ce qui compte, c'est le contenu. Et le contenu, nous le savons, ça a été dit par le président de la République, le Premier ministre et les ministres les plus concernés, c'est la lutte contre l'islamisme, c'est la lutte contre l'islam politique qu'il faut éradiquer de notre territoire et sur des paramètres qui sont très très larges, très différents. Bien sûr, la sécurité, les services de renseignement, la justice, mais aussi l'école, dans l'espace public, dans les quartiers, dans les associations, sur les réseaux sociaux, dans les prisons, où là nous avons une véritable école de fabrication de la radicalisation. C'est sur tous ces périmètres qu'il faut agir. Alors, le nom, peu importe, il changera peut-être encore d'ici le 9 décembre, mais clairement, l'intention, l'objectif, et c'est, il faut toujours nommer les choses pour pas se tromper et pour entraîner, pour mobiliser le pays, c'est la lutte contre l'islamisme, c'est la lutte contre l'islam radical.
Est-ce qu'il sera efficace, c'est la question aussi, pour contrer, pour empêcher cet islamisme politique de se développer. Mais j'ai envie de vous poser une deuxième question. Vous avez été empêché par votre propre camp à l'époque d'agir au prétexte de coller à la politique de Marine Le Pen. Est-ce que ces préventions, ces renoncements ont permis aux islamistes de prospérer pendant ce temps?
Je ne sais pas si on m'a fait le reproche de coller à Marine Le Pen, peu importe, mais en tout cas, toutes les lois qui ont été adoptées en 2012, en 2014, en 2015 sur le renseignement l'ont été à une très grande majorité, à l'Assemblée comme au Sénat, droite et gauche, donc je veux quand même le rappeler, et j'ai eu la chance d'avoir d'ailleurs un soutien de la représentation parlementaire. Mais c'est une bataille culturelle et idéologique contre l'islamisme. Bien sûr, il faut des lois, il faut des textes, il faut les améliorer d'ailleurs. Il faut accepter que la loi évolue. tout simplement pour nous adapter, pour faire face au manque, au trou dans la raquette, comme on dit. Et puis, ça n'empêche pas, aujourd'hui, la loi n'a pas été encore adoptée en Conseil des ministres, celle dont on vient de parler, au ministre de l'Intérieur, ça n'empêche pas d'interdire des associations, d'interdire demain ce qui est la branche politique des Frères musulmans en France, le CCIF, ça n'empêche pas d'agir, et fort heureusement. Mais la prise de conscience que j'évoquais il y a un instant, c'est cette lutte culturelle et idéologique contre une idéologie totalitaire, qui veut placer la religion au-dessus des lois de la République, qui veut en plus prendre en otage les musulmans de France, qui, dans leur immense majorité, bien sûr, rejettent le terrorisme et que n'acceptent pas cette boursouflure, ce qu'on utilise l'islam pour tuer un professeur qui faisait son beau métier, pour assassiner trois chrétiens qui exerçaient paisiblement leur culte dans une église à Nice, pour s'attaquer à des journalistes, etc., etc. Donc, c'est une guerre longue, difficile. C'est pour ça qu'il faut la gagner à l'école, dans les médias, dans la société.
Manuel Valls, vous l'avez dit, là, vous êtes à Barcelone, mais vous êtes de plus en plus souvent en France. Où votre cœur politique bat-il le plus fort entre la France et l'Espagne ?
Mais il bat naturellement, et c'est une surprise pour personne, pour la France. J'ai exercé les plus hautes responsabilités en France, je suis français, je suis un patriote, je souffre quand je vois mon pays attaqué, j'ai changé de pays, je suis venu à Barcelone pour des raisons personnelles, intimes, qui ne regardent que moi, mais je viens régulièrement
en France. Mais qui était politique aussi.
Sans intervenir sur les médias, tout simplement parce que... Oui, bien sûr, mais je viens en France parce que j'y ai mes enfants qui y vivent, qui étudient, ma mère. Et puis il y avait aussi, vous avez raison, ce choix à Barcelone, qui est une belle aventure pour la municipalité de Barcelone. Je n'ai pas gagné, le résultat a été médiocre. Nous avons empêché que la mairie ne tombe dans les mains des indépendantistes grâce à mon vote. C'est déjà ça. Et puis je suis un Européen, vous savez, j'ai vécu le confinement, ces confinements de ce printemps et de cet automne, à Barcelone et à Paris. Je vois, je vis comment les Européens, en tout cas ces deux pays, affrontent tous les défis de notre époque.
Oui,
donc c'est passionnant, avec le recul qui est le mien, ça m'enrichit beaucoup du point de vue de l'expérience.
Manuel Valls, le Parti Socialiste n'a pas grand monde en magasin en vue de 2022. Peut-être Anne Hidalgo, qui ne s'est pas déclarée et qui est d'ailleurs aussi d'origine espagnole. Feriez-vous un bon candidat pour la présidentielle?
Non, mais ces questions ne peuvent pas se poser dans ces termes, et en tout cas encore moins pour moi. Moi, ce qui m'inquiète, comme je ne suis pas dans le débat, de l'élection politique.
Voilà, merci.
Mais je ne pense pas à la course de petits chevaux. Je pense que les grands enjeux, on le voit bien, sont entre... ou les grands chevaux, si vous voulez. Mais je pense que les grands enjeux sont précisément la mise en cause de la démocratie.
Merci, Manuel Valls.
Ça me semble être le sujet le plus important.
Merci. Vous avez dit que la question ne pouvait pas être posée.